passe maintenant à la présentation de notre conférencier de ce soir, Michel Caboche. Il est né en 1946. Il est directeur adjoint de l'unité de recherche en génomique végétale à l'INRA CNRS, Université d'Evry. Quelques dates concernant son parcours. En 1966, il est diplômé de l'école polytechnique. En 1977, il obtient un doctorat d'état S sciences naturelles de l'Université Paris 6. De 1977 à 1995, il a travaillé au laboratoire de biologie cellulaire, au département de physiologie et biochimie végétale à l'INRA à Versailles. De 1995 à 2005, il a travaillé au laboratoire de biologie des semences, au département de physiologie et biologie végétale de l'INRA à Versailles. Et de 2000 à 2007, il a dirigé l'unité de recherche en génomique végétale à l'INRA CNRS, à l'Université d'Evry, qui est située sur le site de la Génopole d'Evry. Donc ses spécialités, il a travaillé successivement dans les domaines animal et végétal. Il s'est ensuite réorienté plus particulièrement dans le domaine végétal au moment où les techniques de génétique cellulaire se développaient, permettant la régénération d'une plante fertile à partir d'une cellule isolée. Il a développé aussi des méthodes de transformation génétique des plantes par transfert direct de gènes. Il a utilisé ses techniques de biologie cellulaire et de génétique moléculaire pour étudier le métabolisme azoté, où il a contribué à élucider la voie d'assimilation du nitrate. Plus récemment, il a développé des travaux sur la biologie de la graine. Ses travaux ont porté sur l'étude du remplissage de la graine en réserve nutritionnelle et sur l'analyse du rôle des tanins dans la physiologie de la graine. En 2000, il a initié des recherches sur les génomes de plantes, sur l'espèce modèle Arabidopsis et sur diverses plantes cultivées. Son équipe a développé de nouveaux outils d'analyse fonctionnelle des gènes de plantes. Et enfin, il a initié et coordonné le programme Génoplantes qui a promu les approches de génomique pour étudier et améliorer les plantes. Il est co-signataire de 160 publications dans des revues à comité de lecture et de 7 brevets. Donc je vais donc maintenant lui céder la parole pour une petite heure, et après quoi vous pourrez poser des questions. Voilà, merci beaucoup.
Eh bien, merci pour cette introduction. Donc, cette heure que nous allons passer ensemble, nous allons la consacrer à l'étude des génomes des plantes, et d'abord nous poser une première question. Si les plantes sont si différentes des animaux, est-ce que ces différences se traduisent au niveau de leur génome? Eh bien, pour commencer cette présentation, il faut introduire une personne que vous connaissez tous, mais je le rappelle tout de même, qui est Gregor Mendel, qui a choisi justement les plantes comme matériel pour faire ses études de transmission des caractères héréditaires. Et nous lui devons donc les concepts de la génétique, qui ont été découverts par Mendel, oubliés par la communauté scientifique et redécouverts ensuite par Morgan. Et ce qui est important dans les travaux de Mendel, c'est qu'il a observé, et ses successeurs ont observé avec lui, que les caractères héréditaires se transmettent dans le règne animal comme dans le règne végétal, de manière similaire, avec des lois tout à fait similaires. Et ce que l'on a déduit comme concept de ces études de transmission des caractères héréditaires, c'est qu'ils sont contrôlés par ce qu'on a appelé des gènes, des éléments qui étaient assez mystérieux au départ, et ces caractères héréditaires sont transmissibles en descendance. Chez nous, humains, par exemple, la couleur des yeux, mais pour les plantes, par exemple, la couleur des pétales. Et l'autre grande découverte qui a été faite pour l'étude du matériel génétique, c'est que ces gènes se comportent comme s'ils étaient disposés le long d'un fil, comme un chapelet de perles posé sur un collier. Et du fait que ces gènes sont disposés les uns derrière les autres sur un fil, il y a la possibilité d'évaluer la distance qui les sépare, mais une distance génétique. Cette étude des gènes des plantes a amené aussi à faire l'hypothèse qu'on pouvait rapprocher ces travaux de génétique aux travaux de cytologie qui avaient mis en évidence, au cours de la division cellulaire, la présence de chromosomes. Et donc, on a pu faire le lien entre la carte génétique et le fait que cette carte génétique, elle est quelque part portée par les chromosomes. Vous avez ici un exemple de caryotypes, c'est-à-dire les chromosomes de trois espèces différentes. La première, Arabidopsis en A, a des tout petits chromosomes. En B, vous avez un génome de betterave, où les chromosomes sont un peu plus gros. Et en C, vous avez un génome de pin, où les chromosomes sont encore plus gros. Et cette observation est assez intrigante parce qu'elle laisse penser d'emblée que chez Arabidopsis, qui a des petits chromosomes, il doit certainement y avoir beaucoup moins de gènes que chez le pin, qui a des chromosomes beaucoup plus importants. Et nous allons voir que ça n'est pas tout à fait la situation. Dans les années 50, est arrivée la révolution de la biologie moléculaire, où on a pu faire un pas de plus dans l'analyse des gènes, où on a pu découvrir que le support moléculaire de l'hérédité dans les chromosomes est constitué d'ADN. C'est cette double hélice dont vous avez bien entendu tous entendu parler, qui est le matériau qui constitue l'information génétique. Et le gros travail qu'il a fallu faire, c'est d'essayer d'établir une relation entre ce que l'on connaissait de la transmission des caractères, de la carte génétique des espèces, et par ailleurs, l'ADN, et plus exactement la séquence d'ADN qu'on a dans les chromosomes. Arriver à faire une relation entre l'un et l'autre, cette relation, elle a été établie progressivement par le fait qu'on a pu identifier certains gènes, au niveau déjà caractérisé au niveau génétique, mais les identifier aussi au niveau moléculaire sur le fil d'ADN qui constitue les chromosomes. Et pour schématiser cette correspondance, je vous donne l'exemple de trois gènes A, B et C qui correspondent à des caractères héréditaires différents. Ces trois gènes sont reliés sur ce chapelet de perles qui est en partie haute. Et en partie basse, on a schématisé l'ADN qui porte ces caractères, qui porte ces différents gènes A, B et C. Alors la chose qui est assez intrigante, c'est que les distances mesurées sur la carte génétique correspondent, mais pas parfaitement, aux distances mesurées sur la carte physique. Alors la carte génétique, les distances sont mesurées en unités de recombinaison. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la raison de cette mesure, mais ces mesures sont exprimées en centimorganes. Alors, la mémoire de Morgan, le grand généticien américain qui a découvert beaucoup de choses importantes dans le domaine de la génétique. Et sur la partie basse, nous avons la séquence ADN que l'on sait décrypter maintenant avec les techniques de séquençage, sur laquelle on a pu localiser les gènes, et les distances entre ces gènes, là, vont être mesurées non pas en centimorganes, mais en nombre de paires de bases qui constituent l'ADN. Alors, comment est-ce qu'on peut commencer à analyser la structure d'un génome? Eh bien, pendant longtemps, c'était quelque chose qui était virtuellement inaccessible. Je me rappelle qu'il y a une vingtaine d'années, imaginer pouvoir séquencer le génome d'un animal ou d'une plante, ça semblait hors de portée. C'était même considéré par certains scientifiques comme ruineux et susceptible d'empêcher la bonne science de progresser. Heureusement, les techniques de séquençage ont fait des progrès absolument fulgurants. Et des techniques de séquençage systématique ont pu être mises au point. Selon le procédé qui est sommairement présenté ici, on a un chromosome qui est symbolisé en bleu foncé. On va le fragmenter en petits morceaux. Et ces petits morceaux, on va les insérer dans des vecteurs qui vont pouvoir les multiplier dans une bactérie. Et ensuite, on va pouvoir séquencer l'ADN de ces fragments. Et petit à petit, ensuite, en analysant cette séquence d'ADN, la reconstituer et assembler l'ensemble de ces séquences de façon à obtenir la séquence ADN de tout le génome. Alors, ici, un exemple de ce travail où on a fait cet effort de séquençage sur le génome de la vigne. C'est un travail qui a été fait en France et en Italie au cours de cette année, a été publié au cours de cette année. Et vous y voyez les 19 chromosomes de la vigne. Il faut que je retrouve mon pointeur. Voilà. Les 19 chromosomes, je vais prendre par exemple le chromosome 4, qui est symbolisé ici par un trait bleu. Eh bien, à ce trait bleu qui correspond à la carte génétique, correspond un alignement de séquences ADN qui constitue ce qu'on appelle la carte physique. Et donc, pour tous les gènes qui se trouvent sur ces chromosomes, il y a une correspondance entre leur présence au niveau du chromosome et leur présence sur la carte physique. Le premier génome de plantes qui a été séquencé, ça a été vraiment un événement important pour la communauté végétale, c'est celui de l'arabette. L'arabette, c'est une plante que vous avez dans vos jardins, vous n'avez peut-être pas remarqué parce qu'elle est assez discrète. C'est une crucifère, c'est-à-dire c'est une plante qui est constituée de fleurs qui ont quatre pétales en forme de croix. Et on l'a choisie parce que, vous vous souvenez tout à l'heure, qu'on a vu que cette espèce avait des petits chromosomes. Et donc, évidemment, le travail de séquençage de l'ADN sur des petits chromosomes est moins laborieux que si on avait pris le génome du pin, où les chromosomes sont beaucoup plus importants en taille. Cependant, petit chromosome, petit génome, ça veut dire quand même 125 millions de paires de bases. Et si vous aviez une base qui aurait, dans un petit schéma où vous représenteriez une base par un élément d'un centimètre, eh bien, la taille du génome correspondance représenterait une longueur d'à peu près 1000 km. Donc, vous voyez, cette information est extrêmement compacte. Elle est sur ce fil, sur ce brin d'ADN, elle est très très serrée, et le nombre de nucléotides qui constituent un génome, c'est quelque chose d'assez gigantesque. Alors, on n'est pas resté simplement au génome d'Arabidopsis, on a vu qu'on avait séquencé aussi le génome de la vigne, mais on a aussi séquencé le génome du peuplier, et d'autres travaux sont en cours sur le génome du maïs, sur le génome de la luzerne, sur celui de la tomate et du soja, et puis aussi sur des espèces qui sont apparentées aux végétaux, comme par exemple les algues, Chlamydomonas, qui est une algue qui est beaucoup utilisée pour les travaux de recherche dans les laboratoires, et puis Scomitrella patens, qui est une mousse, qui elle aussi est beaucoup utilisée maintenant pour les travaux de biologie dans le domaine végétal. Alors, à partir du moment où on a établi la séquence du génome d'une espèce, on est vraiment à la toute première étape d'exploitation de cette séquence, parce qu'il va falloir la lire, il va falloir faire sens de cette succession de nucléotides sur l'ADN. Et le premier travail qu'on va essayer de faire, c'est de localiser ces fameux gènes dont je vous ai parlé dès le début, ces gènes qui ont été considérés pendant longtemps comme ayant un fonctionnement toujours à peu près identique, c'est-à-dire que le gène qui est au niveau de l'ADN va être lu pour fabriquer un ARN messager, et cet ARN messager va être lu lui-même pour fabriquer une protéine. En fait, les choses se sont compliquées, et on s'est aperçu qu'il existait des gènes qui ne codaient pas en fait pour des protéines, mais qui avaient simplement pour fonction de fabriquer des ARN, ces ARN ayant un rôle régulateur. Néanmoins, les caractéristiques classique des gènes, le fait que par exemple ils aient une séquence codante qui permet de les traduire en protéines, eh bien ce sont des caractéristiques qu'on peut arriver à localiser sur la séquence ADN. Et je vais vous illustrer un petit peu la manière dont on procède pour faire ce travail de lecture de l'ADN, ce travail qu'on appelle un travail d'annotation. Donc la première chose qu'on va faire, c'est repérer les zones du génome qui sont constituées de séquences répétées. Vous verrez tout à l'heure pourquoi on s'intéresse d'abord à ces séquences répétées, et si je puis dire, une fois qu'on les a identifiées, on les met un petit peu à part de reste des informations du génome. Ensuite, dans une deuxième étape, on va essayer de localiser les zones où se trouvent les gènes qui codent pour des protéines, et ensuite, on va éventuellement regarder ces gènes qui codent pour des protéines et les comparer à d'autres gènes qui codent pour des protéines et essayer d'établir d'éventuelles similarités. Alors, un petit exemple pour illustrer la façon de procéder. Je ne prends pas les bases de l'ADN comme exemple, ATCG, parce qu'elles parlent un langage que vous auriez du mal à lire sans préparation. Par contre, on va prendre une comparaison avec l'alphabet où j'ai inscrit une séquence de lettres qu'on va essayer de décrypter comme si c'était un morceau de séquence d'ADN. La première chose donc qu'on va faire, c'est repérer les séquences répétées. Elles apparaissent en rouge sur mon petit schéma sous forme d'insert. Dans un deuxième temps, on va repérer les zones qui sont potentiellement des zones qui codent pour des protéines, et ensuite on va assembler ces zones qui codent pour des protéines pour reconstituer une séquence. Et cette séquence, c'est celle qui va commencer à nous permettre de donner sens à l'information qui est portée. Vous voyez qu'on fait apparaître, dans ce cas particulier, un mot qu'on peut comprendre. Et ce qu'on va pouvoir faire par la suite, c'est comparer ce mot qu'on peut comprendre à des mots qui lui ressemblent. Et j'ai pris par exemple ici celui d'un gène qui d'un côté, contrôlerait la couleur des pétales, et d'un autre gène qui, lui, interviendrait dans la couleur des sépales, on peut penser qu'effectivement, ils aient des fonctions assez proches, mais simplement des fonctions qui sont exprimées dans des tissus différents, les pétales ou les sépales. Donc ce travail, on l'a fait non pas sur un petit morceau, mais sur les 125 millions de paires de bases du génome d'Arabidopsis, et voilà le résultat de la lecture qui a été faite simplement sur une centaine de milliers de paires de bases de cette séquence, donc un tout petit morceau. Et vous voyez que, je vais reprendre le pointeur à nouveau, c'est que la lecture de cet ADN va nous mettre en évidence des zones qui potentiellement codent pour des gènes. J'insiste sur le mot potentiellement. Ce travail d'annotation qui est fait avec des outils bioinformatiques, c'est une méthode de prédiction de la présence des gènes, ce n'est pas une méthode de démonstration de la présence des gènes. Il faut ensuite faire tout un travail d'analyse fonctionnelle pour valider qu'effectivement, là où l'analyse de séquence laisse prévoir la présence d'un gène, eh bien, il va falloir faire d'autres travaux pour confirmer qu'il y a bien effectivement un gène avec une fonction à ce niveau-là. Et dans ce cas particulier, eh bien, ce gène, on l'a trouvé ressembler à un autre gène qui, lui, avait été identifié dans le règne animal, un gène qui code pour une stéroïde déshydrogénase. Les plantes ne fabriquent pas de stéroïdes, mais les plantes fabriquent des stérols, qui sont des molécules qui ressemblent aux stéroïdes. Et donc, c'est la situation, on peut faire l'hypothèse que une stéroïde déshydrogénase a chez les plantes un homologue qui serait une stérole déshydrogénase avec une fonction catalytique apparentée. Donc vous voyez que de proche en proche, les informations qu'on va acquérir sur un génome vont être utiles à la compréhension de ce qui peut se présenter, de ce qu'on peut trouver dans un autre génome. Alors sinon on en vient au bilan des gènes qui ont été caractérisés dans le génome d'Arabidopsis, on en a identifié pour l'instant, depuis l'an 2000 où la séquence a été produite, on estime qu'on a à peu près 27 000 gènes dans le génome d'Arabidopsis. Et pour un élément de comparaison, le génome du riz, qui est aussi une plante, mais une céréale, une monocotylédone, ce nombre est un peu plus important, il est l'ordre de 41 000 gènes. Et la chose qui a beaucoup surpris la communauté scientifique, c'est que si on compare ce nombre de gènes chez les plantes et chez l'homme, il est plus important chez les plantes que chez l'homme. Et instinctivement, nous aurions tendance à penser que l'homme est plus complexe qu'une plante, et donc il a certainement besoin de beaucoup plus de gènes pour avoir toutes ses fonctions. Eh bien, manifestement, ça n'est pas tout à fait le cas. Et les plantes ont manifestement besoin aussi d'un très grand nombre de gènes pour assurer leurs fonctions. Par exemple, dans le règne végétal, il y a une multitude de gènes qui ont un rôle important dans l'adaptation de la plante à son environnement. À côté de ces gènes codant pour des protéines, il y a aussi d'autres éléments qui sont des éléments répétés. Je viendrai plus tard à leur nom d'éléments transposables. Mais vous voyez que si on compare la présence de ces éléments dans le génome d'Arabidopsis, ils sont de l'ordre de 4000 éléments répétés, à celle dans le génome du riz, qui est un génome plus gros que celui d'Arabidopsis, on passe à une fréquence de l'ordre de 15 000 séquences répétées dans le génome du riz, ce qui suggère que la différence de taille des deux génomes, en particulier, fait intervenir des différences dans la fréquence de ces séquences répétées. Bien, donc, à partir du moment où on a pu identifier toute une série de gènes dans le génome d'une plante, on va pouvoir éventuellement faire ce travail de comparaison des séquences de ces gènes aux gènes qui sont présents, par exemple, dans une espèce animale, ou dans une levure, ou dans une bactérie, et de cette manière, avoir une petite idée des similitudes d'organisation des génomes de plantes avec d'autres génomes. Et lorsqu'on a fait ce travail de comparaison des gènes, des séquences des gènes présents chez une plante avec ceux qui sont présents, par exemple, chez la levure ou chez des bactéries, on a découvert qu'effectivement, il y avait un grand nombre de gènes de plantes qui ressemblaient à des gènes d'origine animale ou de gènes de levure, ce qui n'est pas une totale surprise parce que les plantes sont constituées de cellules qui sont pourvues de noyaux, qu'on appelle donc des cellules eucaryotes, et les animaux sont aussi constitués de cellules qui ont aussi un noyau où l'information génétique se trouve, qui sont aussi donc des eucaryotes. Et il n'est pas complètement surprenant qu'un eucaryote animal ou un eucaryote végétal et un certain nombre de gènes qui ressemblent beaucoup parce qu'ils ont probablement des fonctions très très similaires entre ces deux espèces. Là où on a été plus surpris, c'est de constater qu'il y avait des ressemblances assez fortes d'un grand nombre de gènes de plantes avec des gènes de cyanobactéries. Alors ces cyanobactéries, elles ont une particularité, c'est qu'elles sont capables de photosynthétiser, elles sont capables d'utiliser la lumière et le gaz carbonique pour fabriquer des sucres. Et les plantes, vous savez, sont aussi des organismes photosynthétiques. Et cette observation que les cyanobactéries ont des gènes similaires pour partie à ceux qui sont présents dans les plantes a permis de faire l'hypothèse que peut-être les plantes seraient issues d'une symbiose entre une cellule eucaryote non photosynthétique et une cyanobactérie qui, au cours de l'évolution, aurait donné au phylum des plantes. Alors, c'est schématisé ici. C'est un processus qui a dû s'effectuer il y a très très longtemps. On estime que cette symbiose qui s'est mise en place entre un eucaryote capable de respiration, c'est-à-dire un eucaryote qui possédait des mitochondries, mais qui ne possédait pas de chloroplaste, cet eucaryote a fait une symbiose avec une cyanobactérie, et c'est probablement de la cyanobactérie que dérivent les chloroplastes qui sont présents chez les plantes. Donc on a eu des organismes intermédiaires qui avaient un génome chloroplastique qui était pratiquement identique à un génome de cyanobactérie, et puis ensuite, au cours de l'évolution, progressivement, les gènes qui étaient présents dans le chloroplaste, les gènes d'origine cyanobactérienne, se sont retrouvés dans le génome nucléaire, sur les chromosomes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, lorsqu'on compare les gènes qui sont présents sur des chromosomes de plantes, on en trouve qui ressemblent à des gènes qui sont présents dans une bactérie, parce qu'il y a eu ce passage des gènes d'une structure, d'une organisation prokaryotique à une organisation eucaryotique. Alors, voyons un petit peu comment sont organisés ces génomes de plantes. Les travaux de génétique, un petit peu analogues à ceux que Mendel avait fait sur le pois, avaient amené un certain nombre de généticiens à observer que dans des espèces apparentées, par exemple ici des céréales, on a plusieurs cercles qui symbolisent les chromosomes de différentes céréales. Le cercle noir correspond au génome du blé. Les deux cercles gris correspondent au génome du maïs, et le cercle bleu central correspond au génome du riz. Et ce qu'on a constaté, c'est que assez fréquemment, un chromosome par exemple de riz qui porte deux marqueurs génétiques particuliers, comme par exemple un marqueur de couleur de graines et un marqueur de dispersion de graines, eh bien on constate que sur une... Excusez-moi, c'est pas encore l'heure d'arrêter. Les chromosomes qui sont présents, par exemple chez le blé ou chez le maïs, vont se trouver portés eux aussi à la fois des gènes de dispersion des graines et des gènes contrôlant la couleur de la graine. Et ceci peut s'expliquer par le fait que les céréales sont probablement au cours de l'évolution issues d'un ancêtre commun, et l'organisation des chromosomes de cet ancêtre commun a été au moins en partie gardée jusqu'à nos jours dans les différentes céréales qui en sont dérivées. Et donc on retrouve une organisation, une disposition des gènes similaires sur différents génomes de céréales. Alors, est-ce que c'est bien vrai? Eh bien, l'analyse des séquences des chromosomes de différentes espèces a confirmé cette réalité. Ici, par exemple, une diapositive qui m'a été fournie par Jean-Christophe Glassmann, un collègue qui travaille au CIRAD et qui compare le génome du riz et le génome du bananier. On a disposé quatre chromosomes du riz qui sont sur votre droite et quatre chromosomes du bananier qui sont sur votre gauche, et on a mis des traits pour indiquer les endroits où un gène de riz correspondait à un gène de bananier. Et vous voyez, bon, ce n'est pas absolument parfait, mais dans l'ensemble, à la succession des gènes sur les chromosomes du riz correspond une succession des gènes sur les chromosomes de bananier assez similaire. Ce qui s'exprime par le fait qu'on a une synténie, une organisation assez similaire entre des espèces qui sont apparentées. Et donc, ce petit travail illustre qu'on a bien eu une conservation de l'information génétique et des gènes sur les chromosomes, mais on voit aussi qu'il y a des nouveautés, qu'il y a des zones entre le riz et le bananier qui diffèrent. Et ces zones, évidemment, elles correspondent au fait que ces deux espèces ont évolué différemment et ont acquis des caractéristiques différentes. Mais si maintenant on s'intéresse à analyser dans un seul génome la présence de gènes en plusieurs copies dans le génome, on a aussi des surprises. Et c'est illustré par exemple ici avec des travaux que nous avons faits sur le génome de la vigne, où on a étudié les gènes qui étaient présents sur un des chromosomes et on a recherché sur le reste des chromosomes de la même espèce s'il y avait d'autres gènes, d'autres endroits où on retrouvait des gènes identiques aux gènes présents sur le premier chromosome. Donc on a comparé les gènes du chromosome 11 avec tous les gènes qui sont présents sur les autres différents chromosomes et on a constaté que, par exemple, au chromosome 11 correspondait toute une série de gènes qui étaient aussi présents sur le chromosome 4 et de même toute une série de gènes qui étaient présents sur le chromosome 9. Et donc ce qui voulait dire que pour chacun des gènes de la vigne qu'on a étudié, on a trouvé deux autres copies dans le génome. Et ça, c'est une indication que probablement la vigne est issue d'un événement d'addition de trois génomes différents pour faire une espèce hexaploïde. Et ce petit schéma illustre qu'effectivement, si on fait ce même travail d'analyse sur l'ensemble des chromosomes de la vigne, on constate que pour chaque couleur que j'ai choisie, par exemple ici la couleur verte, eh bien, on a un chromosome qui correspond à cette couleur verte et on en trouve deux autres, ici et là, qui sont aussi de couleur verte, c'est-à-dire qu'ils comportent toute une série de gènes qui sont très similaires à ceux qui sont présents sur ce chromosome. Et c'est vrai pratiquement sur l'ensemble des chromosomes de la vigne. Et ceci suggère que, eh bien, on a eu trois copies de génomes qui ont été mises ensemble pour faire une espèce hexaploïde, c'est-à-dire avec non pas N chromosomes, mais 3N chromosomes. Alors ce processus d'addition des génomes, il s'est produit au cours de l'évolution assez précocement dans le cas de la vigne, puisque c'est une caractéristique, cette triplication on la trouve non seulement chez la vigne, mais on la trouve chez toutes les espèces dicotylédones qui ont été analysées pour la structure de leur génome. Mais on connaît aussi des exemples beaucoup plus récents d'addition de génomes pour constituer une nouvelle espèce. Ici un exemple avec le colza. Le colza en fait est une espèce qui est issue de l'addition des chromosomes du chou et de la navette. Le chou a 18 chromosomes, la navette en a 20, et le colza, en fait, en a 18 plus 20, c'est-à-dire 38. Et le colza est en fait purement et simplement l'addition de deux génomes, ce qui veut dire que pour tout gène que l'on caractérise chez le colza, on s'aperçoit qu'il y en a toujours une deuxième copie, en plus de celle que l'on connaissait au départ. Donc chez le colza, c'est une addition qui s'est faite entre deux génomes d'espèces différentes. Et donc, on dit que l'espèce est alloploïde, allotétraploïde. Et maintenant, on va avoir un autre exemple, celui du blé, où on a une espèce qui est allohexaploïde, c'est-à-dire que le blé résulte non pas de l'addition de deux génomes de plantes, mais de l'addition de trois génomes de plantes. Donc, la chose qui est assez instructive aussi, c'est que si vous regardez les épis qui sont produits par les trois plantes qui sont à l'origine du génome du blé d'aujourd'hui, ces plantes font des épis qui sont assez maigres, assez minces et a priori probablement pas très intéressants à être utilisés comme aliments. Et l'addition des trois génomes va aboutir à un épi qui a une structure qui est un petit peu différente et avec des graines beaucoup plus grosses, ce qui a fait l'intérêt de l'homme pour la domestication du blé, parce que c'était un matériel qui était intéressant à récolter et riche en éléments nutritifs. Donc ce blé hexaploïde que nous cultivons aujourd'hui, il est issu d'événements qui se sont produits pour la formation de l'hexaploïde à peu près à une quinzaine de milliers d'années. Alors pourquoi les processus de polyploïdisation sont fréquents chez les plantes? On n'a pas pour l'instant d'explication absolument claire et définitive. La première explication peut tenir au fait que les barrières de fécondation entre espèces végétales ne sont pas trop stringentes. Vous avez vu l'exemple, par exemple, de trois céréales qui peuvent additionner, constituer le génome du blé. Eh bien, encore aujourd'hui, il est possible de croiser du blé avec du chien-dent. dans le domaine des plantes dicotylédones, de même, on peut avoir des croisements entre espèces relativement éloignées. Et souvent, le fait d'additionner deux génomes a comme conséquence aussi de provoquer un phénomène de vigueur, ce qu'on appelle la vigueur hybride. C'est l'addition de deux génomes apporte des plus de chacun des deux parents. Et le produit d'addition de ces deux génomes, donc souvent, va avoir des caractéristiques de vigueur plus importantes. Et en plus de cette vigueur, le fait d'additionner deux génomes va avoir comme conséquence qu'il ne peut plus se croiser avec les parents qui lui ont donné naissance. Et il va donc devoir mener une existence indépendante et constituer progressivement une nouvelle espèce. Alors, une chose qui est intrigante, si par exemple chez la vigne on constate que le génome est constitué de l'addition en fait de trois génomes ancestraux, si pour beaucoup d'espèces végétales c'est le cas, pourquoi est-ce qu'on ne se retrouve pas avec des grandes différences dans le nombre de gènes, comme on pourrait s'y attendre, par addition successive de génomes? Eh bien, l'explication à ce phénomène, c'est que alors que la création de nouvelles espèces par addition de génomes est un événement brutal qui va doubler éventuellement le stock de gènes, ensuite, au cours de leur évolution, les espèces amphiploïdes vont avoir une tendance à perdre progressivement les gènes qu'elles ont dupliqués. Ça peut se schématiser par ce petit exemple ici, où vous avez une séquence ancestrale qui est indiquée en orange, à partir de laquelle une séquence jaune et une séquence verte ont été produites, et ces séquences jaunes et vertes, dans le même génome, vont être sujettes à des pertes progressives de gènes, et ces pertes vont s'effectuer de manière balancée, c'est-à-dire que les pertes de gènes sur le chromosome jaune, ici, ne sont pas associées à des pertes sur le chromosome bleu ici. Par contre, les pertes sur le chromosome bleu ne sont pas associées à des pertes sur le chromosome jaune, ce qui veut dire que progressivement, eh bien, si on a une coexistence de deux copies d'un génome dans un génome ancestral, progressivement, les pertes de gènes vont aboutir à ce qu'on se retrouve finalement, au bout d'un certain temps, à la situation initiale où on n'a plus deux N chromosomes ou X gènes, mais on a X sur deux gènes qui vont rester après une grande évolution de cette espèce. Alors quel est le bénéfice pour la plante d'additionner des chromosomes et ensuite de perdre des gènes? Eh bien, au cours de ce travail, incessamment, il y a des processus d'adaptation qui sont en jeu. Les gènes vont bouger en termes de structure et de fonction et ils vont permettre petit à petit à la plante qui subit ces événements à s'adapter à un nouvel environnement et à diverger des autres espèces dont elle provient. Alors ici, un exemple caricatural de perte de gènes dans le cas du génome du blé. Donc vous vous souvenez que le génome du blé est le résultat de l'addition de trois génomes. Et ces trois génomes, ancestralement, comportent un gène important qui est un gène qui intervient dans la panification. Il est important pour nous d'abord, puisqu'il nous permet de fabriquer du pain à partir du blé. Mais la chose qui est assez étonnante, c'est qu'au cours de sa courte évolution, le blé donc, qui est hexaploïde, eh bien, sur les trois génomes qui comportaient une copie de ces gènes importants pour la panification, les génomes A, B et D, le génome A et le génome B, sont deux génomes pour lesquels on a effectivement un trou, vous voyez, qui est localisé ici, un trou qui n'est pas présent chez le génome D. Le génome D porte ce gène important qui est en pointillé noir ici, et les génomes B et A l'ont perdu. Heureusement que le génome D a conservé ce gène, parce que sinon le blé ne serait pas paniflable. On ne pourrait pas faire de pain avec le blé. Et donc il faudrait certainement repartir des trois ancêtres, refaire l'hexaploïde, pour avoir un blé utilisable. Alors, j'en viens maintenant à cette question que j'avais soulevée presque au début de mon exposé. Qu'est-ce qui fait que les génomes de plantes ont finalement une taille si différente? Et quand je dis que la taille est différente, vous avez un exemple ici qui illustre. On a le génome d'Arabidopsis qui a une taille de 140 millions de paires de bases. Le génome du blé, il a une taille de 16 milliards de paires de bases. Donc il est absolument gigantesque par rapport au génome d'Arabidopsis. Et donc ce génome du blé, on sait qu'il ne contient pas des centaines de copies de gènes, il en contient un nombre qui est pas si différent que ça du génome d'Arabidopsis. Et donc, qu'est-ce qui fait la différence? Eh bien, ce qui fait la différence, c'est la présence ou l'absence de séquences répétées. Ces séquences répétées, elles ont été découvertes il y a déjà quelques années par une généticienne américaine qui s'appelle Barbara McClintock. Barbara s'intéressait aux instabilités génétiques qu'on peut observer chez le maïs, sur les épis de maïs. Sur un épi de maïs, par exemple, les graines vont être foncées en général, et par mutation, on peut obtenir des maïs à graines blanches. Et Barbara McClintock avait trouvé que certains de ces mutants de maïs à graines blanches réversaient, c'est-à-dire qu'à fréquence très élevée, la couleur blanche était perdue pour donner une couleur rouge. Et Barbara McClintock a fait l'hypothèse que c'était des petits fragments d'ADN, qu'elle a appelé des transposons, qui bougent dans le génome, qui vont d'un endroit à un autre du génome et qui vont provoquer des mutations. Alors, comment fonctionnent ces transposons? Ici, un petit schéma qui illustre. Vous avez un transposon qui est surligné en bleu. Il va s'exciser de l'endroit où il se trouve dans le génome, s'exciser de l'ADN, pour aller s'insérer à un autre endroit. Et en l'occurrence, l'endroit là où il s'est inséré correspond à un gène. Et du fait de l'insertion de ce transposon dans le gène va perdre sa fonctionnalité et va provoquer éventuellement une mutation visible et par exemple une perte de couleur de la graine, comme j'avais suggéré tout à l'heure. Mais ce transposon, une fois qu'il est rentré dans ce gène, il a encore la possibilité, plus tard, éventuellement, plusieurs générations plus tard, de s'exciser et de restaurer la structure du gène avec cependant, au niveau de ce gène, une petite cicatrice, une petite modification de séquence qui peut avoir une conséquence bénéfique ou au contraire néfaste sur la fonctionnalité du gène. Mais on pense que ces transposons ont en définitive un rôle accélérateur dans l'évolution des génomes par le fait que, sans arrêt, ils s'excisent, ils se réinsèrent, ils provoquent des mutations et en s'excisant à nouveau, provoquent des modifications. Les transposons, en fait, sont constitués de deux classes. La première classe que je viens de vous montrer, c'est des transposons qui fonctionnent par couper-coller. Un élément génétique est à un endroit du génome et il saute à un autre endroit du génome. Il y a une autre classe d'éléments transposables qu'on appelle des rétrotransposons. Et ceux-là, au lieu de s'exciser, ils forment une copie et cette copie va aller s'insérer à un autre endroit. Et donc, c'est une classe de transposons qui est tout à fait propice à s'accumuler dans le génome, puisque à chaque événement de transposition, il y a une copie supplémentaire de l'élément dans le génome. Et on constate effectivement, quand on analyse les séquences de génomes de diverses plantes qui ont des génomes de taille plus ou moins grande, que la fréquence des transposons est très variable. Chez Arabidopsis, qu'on a choisi pour le séquençage, on a eu le nez creux de le choisir parce qu'il comporte seulement de l'ordre de 10% d'éléments transposables. Le riz en comporte déjà 37%. Le maïs en comporte 60%. Et le blé, 82%. Donc, dans le cas du blé, essentiellement, ce qui est présent dans le génome du blé, c'est des transposons. Mais pas seulement, sinon, vous ne pourriez pas consommer de pain. Et ces transposons ont la propriété de ne pas se répartir de manière uniforme sur les chromosomes. On s'est aperçu qu'ils avaient tendance à s'accumuler en particulier dans des zones centromériques qu'on appelle des zones hétérochromatiques, précisément en référence aux travaux de cytologie qui ont mis en évidence ces centromères par des colorants des chromosomes. Et les gènes, par contre, qui sont présents dans ces génomes, eux, sont localisés dans des zones qu'on appelle euchromatiques, qui ont une coloration beaucoup plus régulière. Eh bien, on a essayé de regarder un peu comment fonctionnaient ces zones euchromatiques et ces zones hétérochromatiques. Et là, ça nous amène dans ces techniques de biologie moléculaire à haut débit qui permettent de faire des choses extraordinaires aujourd'hui pour comprendre comment les génomes fonctionnent. Vous avez deux zones qui sont côte à côte. Il faut que je retrouve mon pointeur. Dans la zone chromatique, on s'est intéressé, sur cette ligne-là, à mesurer la fonctionnalité des gènes, à mesurer les quantités d'ARN. Vous vous souvenez qu'à partir d'un gène, on peut fabriquer un ARN et ensuite une protéine. On a le moyen de scanner tout le long du chromosome la présence d'ARN qui sont produits à partir de ce chromosome. Et vous voyez que toute cette zone produit des ARN qui sont localisés là où se trouvent des gènes. Et puis quand on arrive dans la zone hétérochromatique, on ne voit plus rien, il n'y a plus de transcription. Et si on analyse la structure de l'ADN dans les zones hétérochromatiques où sont présents les transposons, on constate que la composition chimique de l'ADN est légèrement différente de ce qu'elle est dans le chromatine. Dans l'hétérochromatine, elle est modifiée par des processus de méthylation sur certaines bases de l'ADN. Et ces processus de méthylation sont associés au fait que la zone est silencieuse en matière de transcription. Donc ces transposons qui sont présents en grand nombre dans les génomes, en fait, ils sont, si je puis dire, contrôlés par la plante qui a des mécanismes qui vont lui permettre d'empêcher ces transposons de fonctionner, de bouger, de faire des copies et éventuellement de détruire le génome par de multiples insertions. Donc il y a une espèce de combat qui se fait entre les transposons qui sautent, qui s'excisent, qui peuvent provoquer des mutations, et la plante qui les réduit au silence pour les empêcher de bouger parce qu'ils peuvent avoir des effets délétères. Mais en fait, ces transposons ne sont pas à nouveau que négatifs, que néfastes à la stabilité des génomes, puisque, je vous l'ai dit tout à l'heure, ils contribuent aussi à accélérer la vitesse d'évolution de ces génomes. Bien, nous avons vu un petit peu quelques éléments importants de la structure des chromosomes des plantes. Nous allons voir maintenant un petit peu aussi comment on peut caractériser les gènes qui sont présents sur ces chromosomes et comment on peut faire sens de leurs fonctions. Il y a deux grandes approches que l'on peut employer pour caractériser, pour faire l'analyse fonctionnelle des gènes. On peut partir du phénotype pour aller jusqu'au gène, partir par exemple du caractère ridé des petits pois de Mendel jusqu'à l'identification de l'enzyme qui est impliquée dans ce caractère ridé, c'est-à-dire une enzyme de fabrication de l'amidon. On a au départ un phénotype, le phénotype ridé, et à l'arrivée, une séquence ADN qui est décryptée et qui est découverte comme codant pour une enzyme de fabrication de l'amidon. La génétique reverse va partir de l'opposé, on va partir de la séquence d'un gène dont on ignore la fonction, et on va essayer de casser ce gène pour voir les conséquences sur le phénotype et du coup anticiper quelle peut être exactement la fonction de ce gène. Alors, la démarche qui consiste d'aller du phénotype vers la séquence ADN, c'est une démarche qui continue à être très importante pour analyser en particulier les génomes de plantes cultivées. Il s'y trouve un grand nombre de gènes dont pour l'instant les fonctions ne sont pas connues. On a des phénotypes qui sont associés à ces plantes cultivées, mais on ne sait pas associer une séquence ADN à ces caractéristiques. Et pour essayer d'identifier ce type de gène qui a une conséquence sur le phénotype, on va utiliser ce qu'on appelle le clonage positionnel, c'est-à-dire qu'on va essayer de localiser sur la carte génétique le plus précisément possible la mutation, le gène qu'on veut étudier par la localisation de la mutation. Et une fois cette localisation faite de manière très précise, on va passer de la carte génétique à la carte de la séquence ADN et de cette manière aboutir à la séquence du gène. Alors un exemple que je vous donne pour un locus qui est important chez le melon, c'est le locus VAT qui permet au melon de résister aux pucerons. Alors vous allez me dire, parce qu'il y a des melons qui résistent aux pucerons, oui, en voilà une illustration. Vous avez un test biologique où on a inoculé des pucerons sur une feuille d'une plante sensible et sur une feuille d'une plante résistante, et vous voyez qu'il y a vraiment une différence spectaculaire. La plante résistante, véritablement, oppose au puceron un processus qui fait qu'il ne va pas continuer à piquer, et qu'il va plutôt quitter la plante que d'essayer de l'infecter. Et donc, on peut distinguer facilement un melon qui est résistant au puceron d'un melon qui est sensible. Et de cette manière, si on fait un croisement entre un melon résistant et un melon sensible, en faisant une analyse de descendance sur une grande population, on va pouvoir raffiner la position de ce gène de résistance sur la carte du melon. Et ça aboutit à ce type de travail que je vous présente ici, où on va séquencer la zone où on a localisé avec précision la position du gène, et le cercle rouge indique la localisation finale du gène de résistance au puceron que l'on va pouvoir séquencer et dont on découvre en fait ce gène est membre d'une famille multigénique qui est constituée de gènes qui sont tous orientés dans des processus de résistance aux pathogènes chez les plantes. Donc cette démarche de génétique classique qui va du phénotype au gène. Cette démarche de génétique classique est assortie des outils moléculaires. Elle est très importante parce que elle nous donne un outil formidable pour améliorer les plantes que l'on veut cultiver. Comment est-ce qu'on veut améliorer les plantes? Eh bien, on a chez le melon, des variétés résistantes aux pucerons, et on a chez le melon, par exemple, des variétés qui sont plus sucrées que d'autres, et éventuellement d'autres caractères. Eh bien, ce qu'on va vouloir faire, c'est par croisement et analyse de descendance, regrouper dans un même génotype les différents caractères favorables qu'on avait repérés dans trois génotypes différents. Ici, par exemple, le locus VAT impliqué dans la résistance aux pucerons, un gène de résistance aux potivirus, qui sont des virus qui infectent les melons, et un gène, une zone localisée comme importante pour la teneur en sucre. Eh bien, par croisement de ces deux génotypes et par tri en descendance, en utilisant des marqueurs moléculaires qui correspondent à ces gènes qu'on a identifiés, on va pouvoir obtenir une plante qui va cumuler les trois gènes qu'on veut associer dans un génotype qui sera plus performant. Cette démarche-là, elle est beaucoup utilisée aujourd'hui en amélioration des plantes et elle est complétée par une démarche de génomique fonctionnelle. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une autre démarche? Eh bien, ce travail qui va du phénotype au gène est un travail qui est très puissant, mais qui est lourd en général, qui demande des investissements importants. Et ce qu'on voudrait faire, c'est bien entendu aller beaucoup plus vite. Et chez Arabidopsis, par exemple, depuis 8 ans qu'on a obtenu la séquence complète du génome d'Arabidopsis, on a encore dans ce génome 50% des gènes dont la fonction est totalement inconnue. Et donc, ce que l'on veut, c'est développer des procédures qui permettraient de manière systématique d'identifier rapidement la fonction des gènes. Alors, comment est-ce qu'on peut procéder? Eh bien, on va utiliser d'abord le premier critère dont je vous avais déjà parlé, le critère d'homologie de séquence ou de similitude de fonction. Un gène a une fonction bien connue. Il ressemble à un gène qui n'a pas de fonction connue jusque-là. S'il lui ressemble, eh bien, on va avoir des idées qu'on va pouvoir tester pour vérifier que cet autre gène a bien la fonction attendue. La deuxième approche, ça va être de provoquer une mutation au niveau du gène et de voir les conséquences. Et les autres approches sont des approches où on va essayer de regarder où et quand le gène est exprimé. Si c'est un gène qui est important pour le système reproducteur, il est logique de penser que ce gène, on va le trouver exprimé dans les fleurs de la plante. Si par contre, c'est un gène qui joue un rôle important dans la photosynthèse, vous vous attendez à ce qu'il soit plutôt exprimé dans les feuilles que dans les racines, et ainsi de suite. L'autre aspect qu'on va pouvoir utiliser pour deviner la fonction des gènes, c'est la localisation intracellulaire de la protéine qui est codée par le gène. Il y a des techniques qui permettent maintenant de localiser des protéines avec des marqueurs de coloration. Et dernier aspect, on va pouvoir éventuellement identifier la fonction d'un gène en étudiant les protéines qui sont capables d'interagir avec la protéine pour laquelle code ce gène. Donc, toutes ces informations, lorsqu'elles sont cumulées, vont vous permettre de dresser une espèce de portrait robot du gène et d'aboutir finalement à sa possible fonction. Alors, comment aller du gène au phénotype? Eh bien, il y a une technique qu'on a mise au point récemment, qu'on appelle la technique de Tilling, qui permet en fait d'identifier des mutants affectés dans un gène d'intérêt particulier. Alors, comment on procède? Eh bien, on va prendre une grande population de plantes, on va les mutagéniser. Mutagéniser, ça veut dire induire des mutations au hasard dans le génome de ces plantes, obtenir des descendances de ces plantes dans lesquelles vont apparaître les mutations et les effets phénotypiques de ces mutations, et ensuite utiliser une technique qui va nous permettre, pour un gène particulier, pour chacune des descendances de la mutagénèse, de tester si ce gène a gardé la séquence qu'il a avant la mutagénèse, ou s'il a, du fait de la mutagénèse, eu une petite modification. Et ce travail, on va pouvoir le faire sur, par exemple, une population de 20 000 plantes. Sur ces 20 000 plantes, par un procédé que je ne vais pas détailler aujourd'hui, mais un procédé à haut débit, on va pouvoir les tester les unes après les autres et identifier sur les 20 000 celles qui qui porte une mutation sur votre gène d'intérêt. Et une fois cette plante porteuse de la mutation identifiée, on va l'étudier, la caractériser, regarder si elle a un phénotype particulier. Donc cette technique dite de Tilling est très performante. Elle vient en complément d'autres techniques qui sont des techniques de mutagénèse d'insertion. Je vous ai parlé des transposons tout à l'heure. Si ces transposons ont une séquence connue, on peut les tracer, on peut trouver où ils s'insèrent et du coup identifier les séquences dans lesquelles ils sont entrés. Mais ces techniques d'insertion de transposons, elles sont d'autant moins efficaces que le génome est plus grand. Et pour les techniques de Tilling, par contre, avec les mutagénèses chimiques, l'efficacité de la méthodologie est pratiquement indépendante de la taille de la population, et donc ça en fait une méthode tout à fait intéressante à exploiter pour faire de l'analyse fonctionnelle. Ça nécessite simplement des serres assez grandes. Si vous avez 20 000 plantes à cultiver, vous ne pouvez pas les cultiver n'importe comment. Vous devez les suivre, ne pas les mélanger, les récolter séparément et en constituer des stocks pour les travaux d'analyse qui suivront. Alors, un exemple de Tilling pour illustrer comment ça marche. On a mutagénisé une population de plantes de pois. On s'intéressait à une enzyme de voie de biosynthèse des gibérélines. Les gibérélines sont des hormones qui sont impliquées dans l'élongation des cellules chez les plantes. On a identifié dans un stock de 5000 plantes mutagénisées, on en a identifié deux qui sont photographiées ici, à côté d'un témoin. La plante 1962D, la 2370C, qui sont comparées à un type sauvage. Vous voyez que le type sauvage grandit, il dépasse même la taille de la photo, et ces deux plantes, elles, restent courtes, restent assez naines, ce qui correspond assez bien à ce qu'on pourrait attendre d'un gène qui est impliqué dans la synthèse d'une hormone qui est nécessaire à l'élongation des cellules. Et on confirme qu'il s'agit bien d'un gène de synthèse de gibérelline en montrant que ces plantes naines, elles sont restaurées dans leur croissance si on les traite avec un petit peu de gibérelline, ce qui va provoquer les processus d'élongation. D'autres méthodes que l'on va pouvoir utiliser pour analyser la fonction des gènes, et ça sera pratiquement le dernier exemple que je vais vous donner dans ma présentation, c'est cette technique qui consiste à analyser le transcriptome. Le transcriptome, vous vous souvenez, c'est les transcrits, les ARN messagers qui sont fabriqués à partir des gènes. On dispose maintenant de techniques qui vont nous permettre d'analyser le niveau de fonctionnement des gènes de manière systématique pour l'ensemble des gènes d'un génome. Et donc, pour réaliser ce type d'expérience, on va d'abord, à partir des 25 000 gènes ou des 30 000 gènes de la plante que l'on veut étudier, obtenir 30 000 sondes qui correspondent chacune à l'un de ces gènes. Ces 30 000 sondes, qui sont des sondes ADN, vont être fixées sur un support, exemple une lame de verre ou un autre support. Et ces lames de verre qui portent ces 30 000 spots vont être hybridées avec des préparations d'ARN qu'on aura préalablement marquées avec un fluorochrome pour leur donner une couleur. Et on va ensuite, après avoir confronté les sondes et les préparations d'ARN, on va lire ces lames avec des équipements de lecture laser, et on va ensuite enregistrer les niveaux de signaux et comparer dans différentes conditions les niveaux d'expression des gènes. Alors, comment se fabriquent ces puces à ADN? Eh bien, on prépare les échantillons d'ADN, on les spotte sur ces lames de verre dont je vous ai parlé. On prépare par ailleurs des ARN dans deux conditions physiologiques différentes, deux conditions que l'on veut comparer. On va par exemple en marquer une avec une couleur rouge et l'autre avec une couleur verte. On va faire les hybridations et on va obtenir en bas de photo une image dans laquelle on va avoir des spots de différentes couleurs. Lorsque les spots vont être jaunes, ça voudra simplement dire que les gènes des deux conditions comparées sont exprimés au même niveau. Lorsqu'on va avoir une couleur verte, simplement, ça voudra dire que le gène est préférentiellement exprimé dans une condition et pas dans l'autre. Et si on a une couleur rouge, eh bien, ce sera l'inverse, il sera plus exprimé dans l'autre condition et pas dans la première. Et de proche en proche, en comparant deux à deux les niveaux d'expression des gènes, on peut répertorier dans toute une série de tissus les niveaux d'expression de ces gènes et on peut ensuite fournir un catalogue du pattern d'expression de tous les gènes d'Arabidopsis, en l'occurrence ici 30 000 gènes. Et je vous illustre simplement l'exemple pour deux gènes parmi ces 30 000. Un gène dont l'étude a montré qu'il était préférentiellement exprimé dans les stigmates, c'est-à-dire les réceptacles des fleurs qui sont impliqués dans la pollinisation. Et l'autre gène, lui, il est préférentiellement exprimé dans la feuille. Et donc, dans un cas comme dans l'autre, on a des prémices d'indication du type de fonction que ces gènes pourraient avoir, simplement en localisant dans quel tissu ils sont exprimés. Dernier point, mais c'est un point que je ne vais pas traiter parce qu'à lui seul, il nécessiterait une présentation d'une heure. C'est la question évidemment importante de qu'est-ce qui fait la biodiversité d'une espèce. Ici, vous avez une photo de poivrons et vous voyez que des poivrons peuvent avoir des formes sphériques, des formes allongées, une couleur rouge, une couleur jaune. Il y a une grande diversité de poivrons. Et la question qui se pose, c'est de savoir quel est le support moléculaire de ces différences. Et ce support moléculaire, eh bien, à nouveau, vous n'en avez pas été surpris, c'est l'ADN. C'est la variabilité allélique de l'ADN qui fait que lorsque l'on analyse la séquence d'un gène dans différentes espèces de poivrons qui ont des formes de fruits différentes, les gènes qui sont impliqués dans la forme du fruit ou dans la couleur ont des petites différences entre ces différentes variétés et ces petites différences sont le support moléculaire des différences phénotypiques que vous observez. Actuellement, il y a énormément de travaux qui sont développés sur cette diversité allélique. C'est vrai dans le domaine végétal, c'est vrai d'ailleurs dans le domaine humain pour des questions de santé, et c'est vraiment une frontière de la recherche en biologie qui s'ouvre aujourd'hui avec ces techniques de biologie moléculaire qui permettent d'analyser l'expression de 30 000 gènes, de les phénotyper, d'étudier les petites variations de séquences qu'ils peuvent avoir. On a un champ immense d'investigation qui s'ouvre à nous pour comprendre de mieux en mieux comment la diversité biologique d'une espèce se construit et comment elle évolue au cours des générations. Je termine cette présentation en indiquant que la génomique des plantes, c'est important en matière de recherche fondamentale, comment les plantes fonctionnent, comment elles s'adaptent, comment elles organisent leur génome, mais ces connaissances sont aussi très importantes pour exploiter les connaissances que nous avons pour créer des variétés améliorées, des variétés qui vont être résistantes aux pathogènes, qui vont éventuellement être mieux adaptées à des stress hydriques ou qui vont éventuellement être améliorées du point de vue de leur qualité. Et je tiens, pour terminer ma présentation, à remercier toutes ces personnes qui m'ont fourni toute une partie de l'iconographie dont j'avais besoin pour ma présentation. Merci beaucoup.
Une question devant.
Oui, merci pour votre exposé. J'ai plusieurs petites questions, deux intéressantes à la fin, et puis des petites questions, si vous avez peut-être de quoi noter, ou à moins que je reprenne la parole à chaque fois. Toutes petites questions. Alors la première, au départ, vous avez dit que les gènes étaient de temps en temps entrecoupés par des répétitions de je ne sais pas trop quoi. Je me suis demandé si c'était des transposons ou pas. Ma question, c'était d'un point de vue économie. Pourquoi les gènes s'amusent-ils à se faire... pourquoi l'expression... Enfin, je ne sais pas si... Non, c'était des protéines, plus exactement. Pourquoi les protéines s'amusent-elles à être entrecoupées par des éléments exogènes, bizarroïdes, dont je ne sais pas si vous avez avancé à ce niveau-là. Enfin, quelle est l'économie de la biologie pour se faire entrecouper par des éléments... qui pour nous, touristes, étaient un peu bizarroïdes, quoi.
Alors, ma présentation est très, très simplifiée. En fait, il y a beaucoup, beaucoup de choses différentes qui sont... Ah,
si. Il est allumé, mais je ne sais pas s'il donne... Vous m'entendez ? Bien, bon. Merci. Donc, à votre question, oui, pourquoi les plantes s'amusent-elles à avoir des morceaux insérés dans les gènes? C'est une caractéristique commune à l'ensemble des eucaryotes. Les eucaryotes sont constitués de gènes dits morcelés. Et en plus du fait que ces gènes sont morcelés, il y a aussi, effectivement, ces éléments transposables qui peuvent s'insérer dans ces génomes, dans la partie des gènes qui sont introniques. Donc, ça m'amène à d'autres concepts. Donc, dans ces gènes morcelés, entre les zones qui sont effectivement conservées dans l'ARN messager. Il y a des zones qui disparaissent, qui sont dites des introns. Et bien, dans ces introns, il y a aussi assez fréquemment des séquences répétées. Bon, à première vue, ça semble rendre les choses plus compliquées alors qu'elles pourraient être plus simples. Mais le bénéfice pour la plante ou pour l'animal, puisque ces introns existent aussi dans le règne animal, c'est que ce sont certainement des facteurs qui facilitent l'évolution de l'espèce. Si vous avez un gène qui est constitué de 3 exons et de 2 introns, et si ces 3 exons en fait correspondent à des domaines catalytiques différents, un domaine catalytique qui va être utile par exemple pour faire une réaction particulière, un deuxième domaine catalytique qui va être séparé du premier par un intron, mais avec une fonction différente, on peut imaginer qu'ensuite, entre deux gènes complètement différents, il y a des événements de recombinaison où un domaine catalytique qui était présent dans un gène se retrouve associé à un autre gène, parce qu'on peut casser entre les deux parties et assez facilement rabouter sur un autre gène. Donc c'est une des explications, il y en a beaucoup d'autres. Mais en fait, la dynamique de ces génomes est un moyen aussi de créer de la diversité et éventuellement des solutions nouvelles à des questions auxquelles la plante était confrontée. Bon.
Si vous le permet, j'ai deux petites questions et deux questions qui me paraissent un peu moins inintéressantes. Vous aviez bien dit que pour le blé tendre, ça datait d'il y a environ 15 000 ans.
Depuis que l'homme le domestique, oui. C'est-à-dire qu'on estime la domestication remonter entre 12 000 et 15 000 ans.
Ok. Dans un schéma, vous avez mis deux cercles pour le maïs. Je n'ai pas compris pourquoi il n'y en avait qu'un seul pour le blé et qu'un seul pour le...
Oui, tout à fait. Tout à fait, parce qu'à l'époque où ce schéma a été fait, on avait remarqué que chez le maïs, il y avait justement une duplication assez importante. Et on a voulu symboliser le génome du maïs par deux cercles au lieu d'un, parce que à l'époque où ces travaux ont été faits, on a pensé que c'était intéressant de faire valoir le fait qu'il y avait pratiquement deux génomes dans le génome du maïs. Mais on aurait pu tout aussi bien le faire avec un seul cercle.
Et deux petites questions qui m'intéressent légèrement plus. Et ça y est, je donne la parole ensuite à mes collègues. Pourquoi vous avez dit que les algues et la mousse s'apparentaient à des plantes supérieures? La première question.
Elles ont cette caractéristique commune d'être capables de photosynthèse. C'est le seul grand élément qu'elles ont en commun.
Okay. Et dernière question. Le riz et le bananier, donc, d'après vos travaux, sont apparentables. Est-ce que, tout comme le premier présentateur de la première conférence nous avait dit qu'il y avait de mémoire une 8 ou 10 familles de génotypes dans tout l'ensemble des êtres vivants, est-ce qu'au niveau des végétaux, il y a des sous-familles, 3-4 sous-familles? Je sais pas, le riz apparemment et le bananier forment une sous-famille apparemment.
Il y a deux grandes sous-familles dans le règne végétal. C'est les monocotylédones, les plantes qui font un seul cotylédon, et comme par exemple toutes les céréales, et les dicotylédones, les plantes qui ont deux cotylédons, comme par exemple justement le colza, mais beaucoup de plantes potagères, beaucoup d'espèces à fleurs, j'allais dire à jolies fleurs. Les céréales ne sont pas considérées comme les espèces qui font les plus belles fleurs.
Reprenez le micro, mais on va passer peut-être à une autre question, à quelqu'un d'autre.
Ok, merci. Bon, moi je voudrais poser une question, je dirais, qui est un peu, qui me vient à partir de la fin de votre exposé. Hein. Et je dirais que c'est une question qui porte sur la stabilité des génomes, des plantes en particulier, mais du vivant plus généralement, dans l'espace et dans le temps. Alors, vous disiez à la fin de l'exposé... Donc de génération en génération, des mutations de génome se produisaient dans une même espèce, ce qui est un des mécanismes de l'évolution. Maintenant, ma question, c'est la stabilité pour un même individu, qu'il soit végétal, c'est un thème, ou même animal. Qu'est-ce qu'il en est de cette stabilité génomique au sein d'un même individu, stabilité aussi bien dans l'espace que dans le temps? Par exemple... un même animal, un homme, moi-même par exemple, bon, j'ai mon génome, si j'ai des cellules cancéreuses dans un coin-coin, il va correspondre à un génome A qui sera différent d'un génome B à gauche, où j'aurai une peau saine par exemple. Hein. Bien. Est-ce que dans le monde végétal, il y a des choses semblables, et autrement dit, je sais pas, dans le monde des arbres, par exemple, certaines espèces n'ont-elles pas des génomes qui changent presque de branche en branche?
Alors, il y a effectivement des choses spectaculaires dans le domaine. Si vous allez à l'Arboretum des Bars, qui est l'ancienne collection d'arbres et d'arbustes des Villemorin, il y a une zone qui s'appelle le Bizarium, et c'est un endroit où on peut voir de superbes exemples de plantes, d'arbres sur lesquels on a des secteurs pour lesquels il y a eu un événement de mutation qui a modifié leur comportement, et qui fait que vous avez à côté d'une partie apparemment normale de l'arbre, vous avez toute une zone qui est mutée, soit par exemple pour ce qui concerne la capacité de photosynthèse, on va avoir des secteurs blancs au lieu d'avoir des feuilles vertes, soit pour le port, la façon dont s'établit l'architecture. En général, les tiges d'un arbre ont toute une tendance à partir vers le haut. Il y a des variétés pendulaires. Et on a des exemples d'arbres dans lesquels une partie de l'arbre est normale et une partie est mutante et avec un port complètement différent. Chez la vigne, on a multiplié par greffe beaucoup de cépages depuis pas mal de générations. Et maintenant qu'on les étudie un peu dans le détail, on s'aperçoit que ces génotypes, en fait, sont des chimères. Des chimères, c'est-à-dire que des différentes parties de la plante ne sont pas identiques du point de vue génétique. Et donc, c'est un processus, effectivement, qu'on voit dans le règne végétal, et on le voit d'autant plus facilement qu'on est sur les ligneux où on peut avoir une croissance gigantesque. Vous avez des arbres qui vont avoir des milliards et des milliards de cellules, donc c'est des organismes sur lesquels c'est relativement facile, si on fait attention, de repérer des secteurs mutés. Mais pas tellement de secteurs comme les cancers dont vous parliez, parce que, curieusement, pour une raison qu'on n'explique pas clairement, en dehors des tumeurs qui sont provoquées par une bactérie qui s'appelle le Crohn Gall, les plantes ne sont pas sujettes aux tumeurs. La façon dont le développement s'effectue dans le règne végétal est assez différente du règne animal pour que le concept de transformation tumorale n'ait pas vraiment son équivalent dans le domaine végétal.
Monsieur ?
Oui, donc ma question c'est justement sur ça rejoint un peu ce qui vient d'être discuté. Quelle est encore la notion d'espèce dans le monde végétal quand on voit que par exemple le blé descend de trois ancêtres qui n'ont rien à voir entre eux? Est-ce qu'on peut encore parler d'arbres évolutifs pour les végétaux et de la notion d'espèce qui semble assez fondamentale quand même dans le règne animal et qui là, ça semble beaucoup plus souple du côté végétal, non?
Oui, c'est incontestablement, c'est plus souple du côté végétal, mais il y a quand même une certaine stabilité. La triplication qu'on a observée dans le génome de la vigne, on n'avait pas vu jusque-là chez le peuplier et chez Arabidopsis, et une fois qu'elle a été découverte chez la vigne, on s'est aperçu qu'en fait, elle existait aussi chez Arabidopsis et chez le peuplier, et par contre qu'elle était absente chez les céréales, les monocotes qu'on a caractérisés, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup d'événements possibles de ce type-là, mais c'est quand même relativement stable. L'exemple des blés hexaploïdes, c'est un petit peu un extrême. Probablement que dans notre environnement, en permanence, des fécondations croisées entre des céréales relativement apparentées se font et aboutissent à des avortements et ne permettent pas la création d'une nouvelle espèce. La création d'une nouvelle espèce est quand même un événement probablement assez rare, mais comme il est ensuite favorisé, il est relativement facile à repérer. Et puis aussi, l'homme en a tiré parti. Il y a beaucoup d'espèces cultivées qui sont en fait issues d'événements d'hybridation. Par exemple, dans le domaine ornemental, c'est classique. Il y a plein d'exemples d'orchidées, par exemple, qui sont des hybrides ou éventuellement des nouvelles espèces qui sont constituées de l'addition de deux génomes de deux espèces d'orchidées ancestrales. Oui, alors ça marche beaucoup, beaucoup, beaucoup moins dans le règne animal. C'est-à-dire que, par exemple, dans le règne animal, un chromosome surnuméraire dans un génotype, c'est souvent létal. La trisomie 21 est un exemple justement d'un cas où c'est pas trop létal, mais la majorité des triplications de chromosomes chez l'homme sont létales. Dans le règne végétal, par contre, avoir un chromosome en plus ou en avoir un en moins, par exemple chez le blé, on a pu établir une collection de blé dans lesquels on a perdu sur chacun des chromosomes, on a pu obtenir une délétion d'un des bras du chromosome. Et on a des blés avec un demi-chromosome en moins qui se multiplient quand même, bon, qui ne sont pas toujours très vigoureux, mais qui sont quand même viables et qui montrent en tout cas que ces génomes sont beaucoup plus plastiques, supportent beaucoup plus des modifications, des changements et se réarrangent aussi beaucoup plus facilement. Quand on fabrique un hybride de manière artificielle, on peut faire un hybride chou-colza comme le colza... Pardon, je me suis mal exprimé. On peut faire un hybride chou-navette comme celui qui s'est fait spontanément pour faire apparaître le colza. On obtient à ce moment-là des colzas synthétiques, mais quand on étudie leurs caractéristiques, au cours des premières générations, les généticiens disent qu'ils bougent beaucoup, c'est-à-dire qu'il y a des remaniements chromosomiques, ça se réarrange, ça se casse, ça se recombine, jusqu'à ce qu'on ait une formule chromosomique plus stable, et ensuite l'espèce va avoir un génotype qui va beaucoup moins varier. Ça, c'est peut-être pas pour demain, le mariage de la carpe et du lapin. Mais...
Oui, madame, devant.
Monsieur, on a beaucoup étudié donc toutes les hybridations au niveau végétal. Vous avez étudié tous les gènes qui sont changés, qui sont additionnés. Tout ça va très bien. On aide un petit peu la nature quand on aide. Mais quand et comment on fait la différence entre ce travail-là et ce qu'on appelle les OGM aujourd'hui, c'est-à-dire les organismes génétiquement modifiés?
Je vais vous donner un exemple qui est classique dans le domaine végétal. Le piet inverse, c'est une maladie qui attaque la base de la plantule de blé, ce qui fait que lorsque le blé va pousser, s'il y a un petit peu de vent, s'il pleut un petit peu trop, la plante va se coucher et on ne va pas pouvoir la récolter. Donc c'est un défaut important. Et le chien dent que vous connaissez dans vos jardins n'a pas ce défaut. Il résiste très bien au piet inverse. Et donc, on a croisé le blé avec le piet inverse. C'est-à-dire qu'on avait un génome hexaploïde, 21 chromosomes, additionné du génome du piétin, du chien dent, dont je ne me souviens pas du nombre de chromosomes. Mais en tout cas, on a balancé dans le génome du blé les 30 000 gènes qui étaient présents dans le chien dent. Et ensuite, on a sélectionné, à partir de ça, un blé qui avait perdu l'essentiel des chromosomes du chien dent, sauf un morceau de chromosome, donc on ne connaît pas exactement la taille. Probablement qu'à lui seul, il comporte de l'ordre du millier de gènes. Et parmi ce millier de gènes, il y a les deux ou trois gènes, s'il y en a plusieurs, qui sont impliqués dans la résistance au piet inverse. Si on le fait par génie génétique, quelle est la différence? Par génie génétique, on va cartographier chez le chien dent où se trouvent ces gènes de résistance. On va les cloner, on va transférer ces gènes et eux seuls dans le blé, et donc on va faire effectivement un OGM. Pour moi qui suis généticien, je trouve qu'on travaille plus proprement que la nature, parce qu'au lieu d'insérer 1000 gènes d'un coup, on en introduit un, deux ou trois dont on a validé le fonctionnement au départ. Et pour nous, c'est un grand étonnement que l'opinion publique fasse une différence aussi radicale entre un procédé d'un côté qui consiste à faire un croisement et des rétrocroisements et un procédé qui consiste à isoler l'ADN et à le réintroduire dans le génome où il s'intègre spontanément.
On va prendre une dernière question.
Je voulais demander, qu'est-ce qui se passe au niveau du génome lorsqu'on fait une greffe pour un arbre ou une autre plante ?
Eh bien, les deux parties restent génétiquement différentes. Il y a certains cas où, effectivement, on a des mélanges de cellules qui se font au niveau de la greffe et on peut se retrouver à avoir, justement, ce à quoi je faisais allusion tout à l'heure, avoir des chimères d'un type particulier qu'on appelle des chimères périclines, dans lesquels, en fait, la biologie du développement de la plante est une biologie où, au niveau des méristèmes, les tissus qui donnent naissance aux feuilles et aux organes reproducteurs, ces tissus de méristème, en fait, fonctionnent avec trois assises cellulaires qui sont les unes au-dessus des autres, qu'on appelle L1, L2 et L3. Et si on se retrouve, en faisant des greffes, à avoir un mélange de cellules du donneur et du greffon au niveau de la formation de ces méristèmes, parce qu'il y a toujours un processus de régénération qui se fait au niveau de la graine, au niveau de la greffe, à ce moment-là, vous allez avoir une plante qui peut se développer avec une assise L1 du porte-greffe, une assise L2 du greffon, qui va être une chimère, qui va être stable et que vous allez pouvoir multiplier indéfiniment. Et donc, c'est, dans ce cas-là, vous avez, quand vous analysez le tissu, selon les cellules que vous analysez, elles sont du type d'un des parents ou du type de l'autre parent. Mais ça ne veut pas dire pour autant que les informations génétiques du porte-greffe et du greffon se mélangent vraiment. C'est une cellule de type porte-greffe et une cellule de type greffon, ce n'est pas une cellule avec un mélange des deux types.
Michel Caboche, merci beaucoup.